Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale cinéma bis italien. Oui, parce qu'à force de dire à tout bout de champ cinéma de genre, on oublie qu'avant on disait cinéma bis et que ça lui va très bien comme dénominatif cinéma bis au cinéma que nous aimons. Et de quel film va-t-on parler aujourd'hui? Bah, quand même de films qui sont pour la plupart des films importants dans l'histoire du cinéma bis italien. Et en plus, ce qui est intéressant, dans trois genres vraiment très populaires en Italie. On va d'abord faire du gothique italien, hein, avec La sorcière sanglante d'Anthony Dawson, alias Antonio Margheriti, qui est un film de 1964. Un autre film gothique italien, un film de 1966, s'appelle Un ange pour Satan, de Camillo Mastrocinque, qui est lui aussi disponible chez Artus Film. On va ensuite prendre nos flingues, nos bottes, nos Stetson, et on va aller du côté du western, mais du western à l'italiana, pour un film de 67 de Giulio Petroni, sans doute le meilleur film de Petroni d'ailleurs, La mort était au rendez-vous, un film disponible chez Elephant Film. Et puis, on terminera par une petite fournée de Polizieschi, a signé tous trois Stelvio Massi, hein, les deux premières 75, Un flic voix rouge et Marc la gâchette, et puis le dernier en 78, Magnum Cop. Et tout ça, c'est paru chez Artus Film, hein, nos amis d'Artus Film. Et on remercie, hein, l'équipe de Culture Prohibée, remercie Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer cinéma bis italien, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre entité consciente présente à nos côtés, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment à toutes les sorcières qui nous écoutent.
Humboldt, pagherai con la vita.
Mon cher Damien, toi qui es le plus jeune membre de cette équipe, à force que je lui dise ça quand on sera à la saison 40, il me dira, faut arrêter de dire que je suis jeune.
Mon cher Damien, toi qui es le plus jeune de l'émission, tu n'as jamais connu les sorcières. Et non Jérôme, je n'étais pas né à cette époque.
Eh oui. Et les sorcières italiennes d'autant plus, en particulier quand elles prennent les traits d'une actrice qui n'est pas italienne, d'ailleurs Barbara Steele. Hein. Je veux bien sûr parler de La sorcière sanglante d'Anthony Dawson, le pseudo le plus connu d'Antonio Margheriti, un film de 1964 qui vient de sortir chez Artus Film.
On est à la fin du 15e siècle, c'est le carton du début qui nous l'indique, et s'il nous l'indique, c'est tout simplement parce qu'on a Adèle Kenstern qui est condamnée à être brûlée sur un justement parce qu'elle est accusée par le comte de France d'avoir des pouvoirs maléfiques. Sa fille aînée, Hélène, tente de la sauver en accordant ses faveurs au comte Humboldt, mais hélas, il est déjà trop tard pour Adèle, et avant de mourir devant les yeux de sa plus jeune fille, Elisabeth, Adèle lance une terrible malédiction pour frapper le comte, son entourage, ainsi que toute la ville. Peu après, Hélène est tuée par le comte lui-même, qui ne veut pas se faire accuser par l'église d'adultère. Et au final, le temps va s'écouler, la petite Elisabeth va grandir et la malédiction va commencer à s'opérer au petit à petit. Tout semble parti pour que Lisbeth vienne à venger finalement les membres de sa famille, mais c'est pas du tout le cas. Ce qui va se passer, c'est que dans une ambiance lugubre surgit Marie qui a trait pour trait, les traits justement d'Hélène qui est disparue. Alors, au départ, je m'attendais vraiment à une intrigue vraiment de vengeance un peu familiale, et en fait, très vite, on tombe dans cette ambiance de château hanté, de cette ambiance gothique qui est vraiment très appréciable. Donc, château hanté dans l'idée d'une maison hantée, mais surtout on a cette sorcellerie qui est mise en avant de manière assez douce au début, parce que c'est vraiment lié aux différentes vraiment l'histoire. Par exemple, Kurt, qui est le fils du comte, il va tomber amoureux d'Elisabeth, qui on apprend au fur et à mesure du film, et du coup la fille d'Adèle qui a été tuée à cause de Kurt. Les deux vont finir par se marier parce que Kurt veut l'épouser, du coup il va y avoir un mariage forcé. Et le moment où l'intrigue va se mettre en place, c'est le moment où Elisabeth sait que sa mère a été tuée par le comte, mais entre temps elle est tombée amoureuse de Kurt et elle voudrait bien que cette malédiction s'arrête là. Malheureusement, c'est le moment où la malédiction va vraiment tout lancer et va vraiment tout se mettre en place. Là, c'est vraiment encore le début du film. Et ça fait partie des retournements de situation qui vont venir au fur et à mesure à l'intérieur du film. Ce que j'aime bien, c'est que le film, en fait, il prend son temps pour lancer justement toute cette vengeance, et que le film s'introduit justement par une scène de bûcher qui a une certaine mise en scène. C'est pas juste une personne qu'on attache à un poteau et qu'on fait brûler. Et c'est aussi par une scène de bûcher que va se terminer le film, mais il va la faire autrement, il va la faire avec une voix off, et ça renforce en fait tout ce qui est à l'image, toute la narration qui est apportée, et c'est très bien. L'un des autres points qui permet au film de beaucoup de sortir son épingle du jeu, c'est toute une ambiguïté portée par les personnages féminins. L'une va représenter l'innocence, l'autre va représenter le côté maléfique, et au final, les deux vont se retrouver mêlés face à une véritable menace qui est le comte en lui-même, qui de base brûle Adèle parce qu'il pense qu'elle est liée à un meurtre dans sa famille. Il se rend compte que c'est pas le cas, et au lieu de justement mettre en avant la vérité et justement arrêter la malédiction, peut-être en s'en prenant au véritable coupable, il va décider de protéger cette personne, parce que cette personne, c'est Kurt, c'est son fils. Et finalement, on a une sorte d'un menace patriarcale dans le film, où finalement les hommes se protègent les uns les autres, et seule chose qui vont les faire tomber au final, c'est justement une sorte de sororité, ce qui en fait un film avec un discours étrangement très moderne pour son époque, vu qu'on est en 1964.
Oui, le film résonne effectivement beaucoup avec les thématiques qui agitent la société actuelle. C'est un film qui dénonce le patriarcat, hein, parce que en fait, ces bonhommes-là, enfin, on imagine que l'accusation de meurtre de cette femme qui est brûlée au début, de façon assez vicieuse d'ailleurs, hein, parce que en fait, c'est pas un bûcher classique, c'est une sorte de labyrinthe dans lequel il l'enferme, et puis bon, il faut qu'elle essaie de s'en sortir. Puis bien sûr, elle grimpe pour essayer de s'en sortir, mais justement, elle grimpe sur le bûcher, et donc c'est la preuve que c'est une sorcière, voilà. Et donc oui, c'est un film qui dénonce le patriarcat et qui dénonce aussi cette ambivalence qu'ont les hommes entre désirer les femmes et les haïr. C'est ni plus ni moins ça, hein, le fameux fils là, qui est quand même un vrai salopard, hein, qui en fait, il hait les femmes autant qu'il les aime. Donc il est tombé amoureux d'Elisabeth, mais finalement quand Marie revient, Marie, qui est la fille aînée de la pseudo-sorcière, que personne ne connaît en fait. Personne n'a jamais vu son visage. Donc le seul bonhomme qui connaît son visage meurt tout de suite quand il la voit. C'est pratique, hein, crise cardiaque, voilà, pof, il meurt. Et donc du coup, personne ne sait que c'est une revenante qui revient pour se manger, voilà. Et c'est un film donc qui dénonce ça, cette ambivalence des hommes envers les femmes. Et moi, ça me fait beaucoup penser à un film de Clouzot, au Diabolique. Hein, il y a toute cette ambiance là où en fait il y a une partie du film où un personnage est censé être mort, et puis finalement tout le monde croise ce personnage sauf celui qui a perpétré le meurtre. « Ah, mais tu l'as vu où ?» etc. Ça fait vachement penser aux Diaboliques de Clouseau. Et effectivement, il y a tout ce côté gothique, château hanté. Il y a un très beau noir et blanc. C'est une très belle mise en scène. C'est un très beau film. Et effectivement, c'est un film qui suscite l'angoisse et remet effectivement un discours assez moderne.
Je crois qu'il faut voir, en fait, tout simplement, la patte des scénaristes, hein, aussi, derrière le propos du film. Alors, le fait qu'il y ait des emprunts au Diabolique, évidemment, l'un des deux scénaristes est Ernesto Gastaldi. Alors, Ernesto Gastaldi, c'est un spécialiste du giallo, c'est en particulier du giallo de machination à cette époque, parce que là, on est en 64. Enfin, quand le film est fait, il n'y a pas encore eu toute la vague du giallo qui va déferler à partir de 70. Mais il y a déjà cette appétence pour la machination en elle-même, et surtout pour les films de Clouseau, et en particulier pour les Diaboliques, parce qu'il faut bien prendre conscience que les Diaboliques... Alors, il ne le dit jamais, Gastaldi. Hein. Par exemple, Gastaldi va réaliser un proto-giallo qui s'appelle Libido, dans lequel il reprend la vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Je sais, je lui ai posé la question, il me dit qu'il ne sait plus d'où lui vient l'inspiration, mais il reprend en fait l'idée à la vie criminelle d'Archibald de la Cruz, d'un automate qui déclenche l'envie de meurtre. Et qui est un film de Buñuel, hein, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, un super film d'ailleurs de sa période mexicaine. Et là, c'est un peu pareil. En fait, pendant des années, tous ces scénaristes, et Gastaldi n'est pas le seul, hein, vont dupliquer les Diaboliques de Clouseau. Parce que ce qu'on oublie de dire, quand même, c'est à quel point Clouseau était considéré mondialement comme l'équivalent d'Hitchcock. On a déjà parlé de Clouseau dans cette émission, c'est un réalisateur que j'adore, qui en plus c'est un mec qui devait être complètement invivable, un type très dur, et qui en plus a fait des films où il s'est enfermé dans une sorte de fétichisme. Enfin, tout le monde connaît l'histoire de l'enfer qu'il n'a jamais terminé. Enfin, voilà, et tout ça rentre en résonance en fait avec la personnalité de ce type qui est un cinéaste parmi les plus importants qui est connu en fait la France, même si c'est un cinéaste que longtemps la critique a un peu mise de côté quand même, hein. Et puis l'autre scénariste, c'est Tonino Valéry. Alors Tonino Valéry, on sait, parce qu'il est devenu un réalisateur, parce que Gastaldi a fait très peu de films, il en a fait deux je crois, en plus de Libido, mais on sait par contre que lui, Tonino Valéry, est devenu un grand metteur en scène. Alors tout le monde connaît Mon nom est personne, mais si on se penche sur le reste de sa filmographie, on voit chez Tonino Valéry un discours hyper progressiste. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand il fait un western où il va donner des uniformes nazis à des soldats racistes états-uniens, ce qui va provoquer d'ailleurs grosse colère aux États-Unis, hein, mais c'était pour signifier comment les soldats texans considéraient les populations esclaves. Il va faire un film qui est très peu connu de lui en fait, parce qu'il fait du cinéma populaire, hein, mais il arrive à glisser des trucs. Il va faire Une fille nommée Julien, qui est un des premiers films à aborder frontalement cette question du genre, en fait, qui est un film assez détonnant et très peu connu, et qui a eu son succès en plus en Italie, hein. C'est un film, tu connais toi Thomas je crois,
oui, avec une très belle musique en plus.
Et donc voilà, il y a sa patte à lui, à Valéry, dans ce côté féministe du film qui est évident pour moi. Donc on a la rencontre de deux grands scénaristes, hein, Gastaldi qui est un très bon faiseur et Valéry qui est un type progressiste, qui est plutôt un type de gauche, hein, ce qui se transparaît dans toute sa filmographie. Et donc fatalement, ça va influer sur ce film. Et puis après, si on sort de ses préoccupations politiques dont on parle là, parce que le film, du coup, il a une autre résonance, vu qu'on est en 2025. Avant, on l'aurait peut-être même pas remarqué. C'est aussi un film d'épouvante particulièrement efficace. Où vraiment on a les jetons quand même, quoi. C'est vraiment un film très élégant. C'est parmi ce que Margheriti a fait le mieux, parce que Margheriti, c'est un réalisateur assez inégal. Au départ, il est plutôt reconnu pour ses talents de maquettiste pour ses films de science-fiction. Kubrick va venir le chercher pour l'aider sur les maquettes de 2001, tout ça. Et puis, en fin de compte, ce qu'on retient beaucoup de lui, c'est ses films gothiques. Et celui-ci est un de ces... Alors, c'est moins bien quand même que Danse Macabre, dont on avait parlé lors de la saison précédente, qui est sorti chez Artus Film, qui va ressortir d'ailleurs, parce qu'il avait été très vite épuisé, là, qui ressort. Mais c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même un très grand film. Et il y a une sorte de trilogie officieuse, comme ça, de Margheriti, qui peut être, qu'on peut dire, est constituée de Danse Macabre, La Sorcière Sanglante, et La Vierge de Nuremberg, qui est aussi un film dans lequel on a c'est pas un giallo, mais en tout cas, on a la tentation d'aller vers le crimi, le giallo de la part de Margheriti. Donc effectivement, c'est un film assez passionnant. Les deux films là sont passionnants, hein, les deux films sortis. Il y a aussi Un ange pour Satan, mon cher Thomas, qui est un film signé Camillo Mastrocinque, qui est plutôt, alors lui c'était plutôt un spécialiste des comédies avec Toto, tout ça. C'est pas du tout un spécialiste du cinéma fantastique. Ça se sent un peu d'ailleurs dans la manière dont il met en scène le film, et du coup je trouve que c'est très étonnant de confronter un réalisateur comme ça, naturaliste, avec l'univers du gothique très sophistiqué, du gothique italien, hérité de la Hammer, et puis surtout hérité du grand succès du Masque du Démon de Mario Bava, qui va engendrer, parce qu'on sait que l'Italie fonctionne en filonné, il y a un film qui marche, on le duplique, et puis selon le réalisateur, s'il a plus ou moins de talent, il signe plus ou moins un grand film. Et là, Un ange pour Satan, Thomas, il arrive à une période où c'est la fin du filonné, en fait. Vous écoutez Culture Prohibée.
C'est peut-être la fin, mais en tout cas, je trouve qu'Un ange pour Satan, c'est un film très réussi. Pour quelqu'un qui ce n'est pas du tout le genre auquel il était habitué, c'est très réussi, avec encore toujours Barbara Steele dans un rôle qui, elle, là, cette fois, c'est elle qui a un rôle plutôt ambivalent. Hein. Donc, c'est Anthony Stephen qui incarne un restaurateur d'art qui débarque sur une île où une statue a été retrouvée au fond de l'eau, et une statue autour de laquelle il y a une malédiction. On dit que quand on retrouvera la statue, va y avoir des morts dans le village, etc. Donc il est hébergé chez un riche châtelain, et puis sa nièce, elle revient aussi parce que, soi-disant, c'est elle qui a commandité la restauration de la statue. À partir de là, il va commencer à se dérouler des choses étranges. Alors, Anthony Stephen va tomber amoureux de Barbara Steele, hein, bien sûr. Mais Barbara Steele, enfin son personnage, va avoir des comportements étranges. Alors lui, déjà, il va entendre des voix la nuit, des voix qui lui expliquent les choses, la malédiction, qu'est-ce qui s'est passé, une étrange... enfin, il y a toujours question de sexe, hein. Il y a toujours une question de désir, de désir inassouvi, il y a toujours quelque chose de la jalousie, des convoitises, il y a toujours question de ça, et donc le film tourne autour de ça, et... donc, il va tomber amoureux du personnage incarné par Barbara Steele, qui va avoir des comportements étranges. Un coup, elle est douce, amoureuse, etc. Et tout d'un coup, elle devient méchante, agressive, perverse. On ne sait pas très bien si c'est le fantôme de la personne, d'une marâtre qui était jalouse du modèle qui a inspiré la statue, ou si elle a un dédoublement de personnalité. Donc le réalisateur, il entretient cette ambiguïté pendant une bonne partie du film. On ne sait pas très bien si elle est possédée ou si un fantôme. Ou... En tout cas, elle va semer la zizanie dans le village. Et ça va bien sûr occasionner de nombreuses morts, hein. des gosses qui meurent brûlés, un instituteur qui se pend. Enfin, c'est quand même un film qui va assez loin dans le truc. Et finalement, on peut aussi voir un film, quand on connaît la résolution, qui est un peu tirée par les cheveux, hein, comme dans beaucoup de giallo, même si ce n'est pas un giallo. La résolution est un peu tirée par les cheveux, mais on peut voir quelque chose comme un rapport de classe entre justement ces riches riverains et puis ce village qui est quand même plutôt un village de paysans, de gens plutôt pauvres. On peut voir ça dans le film. En tout cas, le film, comme le précédent, comme La sorcière sanglante, hein, il est très beau visuellement. Hein. On retrouve encore des décors similaires, un château, des grands couloirs sombres et déserts, des caveaux. On retrouve tout ça dans ce film-là, qui fait les recettes du gothique italien avec une superbe photographie. Le film est vraiment très beau. Et voilà, c'est un film que je recommande, bien sûr. Merci à Artus Film.
Le petit plus, c'est des bonus avec Nicolas Stenzik, qui présente les films. Et bon, c'est son domaine de prédilection, c'est un érudit. Donc on passe vraiment des super moments avec Nicolas, qui nous explique, tu es venu plein de fois dans cette émission, hein, mais il nous explique vraiment plein de choses sur les films. Je vous invite vraiment à aller voir, aller visionner ces bonus. Alors tu parlais, Thomas, d'un film qui se passe dans un château. Alors c'est un peu différent celui-là, parce que justement, il a un aspect différent des autres films gothiques italiens, parce qu'il est dans une demeure de style palazzo, c'est-à-dire de la Renaissance. Du coup, ça lui donne en plus un cachet esthétique un peu différent des autres films gothiques. Et puis c'est aussi, moi je trouve intéressant, enfin Davien, tu vas me dire ce que tu en penses, mais... Je trouve que c'est un film qui après, c'est un petit côté japonisant. Il y a un côté très contemplatif dans le film. Il y a un côté aussi, on s'amuse un peu avec les poncifs du genre. Il ne ressemble pas à l'autre film. Hein. C'est deux films qui ont des points communs, mais aussi qui ont d'énormes différences. Et effectivement, à l'époque, moi, le public ne se déplace plus en salle. C'est pour ça que c'est la fin du Filoné, pour voir ces films-là. Et pourtant, là, on a le haut du panier. Alors, je n'ai pas vu tous les films de Mastro Cinque, mais je pense que c'est peut-être son meilleur film. Hein. J'avais vu sa Crypte du Vampire, qui était quand même très anecdotique. Là, on est vraiment sur un film assez passionnant.
C'est intéressant que pour un ange, pour Satan, tu parles un peu de côté un peu japonisant, Jérôme, parce que quand je l'ai écrit, ce côté femme fatale que porte Barbara Steele m'a un peu rappelé Tomie de Junji Ito, avec cette femme dont tout le monde tombe amoureux au point de sombrer dans la folie. C'est un peu différent, parce que Tomie, c'est juste parce qu'elle existe, alors que Barbara, bah, c'est elle qui infuse un peu son malheur à travers tout le film. Mais il y a une autre figure un peu générale qu'on retrouve dans toutes les cultures, mais qui m'y fait penser, c'est Anya ou bien la Dame Blanche, dans l'idée de cette femme qui a été tuée, qui revient à la vie, soit pour se venger, soit pour prévenir. Il y a un peu ce côté-là, vu qu'on a pas mal d'éléments fantastiques, potentiellement de la sorcellerie, encore un film où Barbara est liée à la magie. Mais il y a une autre référence qui m'est venue très vite en regardant le film, c'est justement la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, avec cette statue qui ressort d'un endroit et qui va porter son malheur. Là, la différence, c'est que c'est aussi l'adaptation d'un récit, un récit de Luigi Emanuele, sauf qu'on n'a pas, on garde une ambiguïté. C'est pas la statue elle-même qui provoque le malheur, mais on sait qu'elle y est. Les habitants de ce petit village ont tous peur, veulent tous la rejeter dans le lac parce qu'elle apporte le malheur. Et comme l'a évoqué Thomas, c'est un film qui est terriblement sombre et brillamment cruel dans les différentes morts qu'il va y avoir, parce que c'est que des longues descentes aux enfers, en fait. Au début, on nous présente plusieurs personnages, on arrive à les situer. On a le professeur d'école qui découvre l'amour, qui est encore tout jeune. On a le père de famille qui a une grande famille et tout. Et au fur et à mesure qu'on va avoir la nièce du comte, du coup jouée par Barassi, qui va les rencontrer, ils vont chacun un peu se retourner. Le maître, il va finir par perdre le jeune amour qu'il est en train de conquérir. Il va tomber amoureux d'elle et ça va très mal se finir pour lui. Pareil pour le père de famille qui va vouloir être exclusivement avec elle et qui va essayer de se débarrasser de toute sa famille pour y arriver. Et au final, l'horreur qui se crée est un peu double, parce qu'on a tous ces crimes qui arrivent, mais on a aussi ce jeune sculpteur qui se transforme un peu en enquêteur pour trouver ce jeune restaurateur qui essaye de trouver la réponse. Donc il y a des moments où c'est assez amusant, il fait plus trailer qu'épouvante, mais personnellement, je préfère un ange pour Satan de Mastro Cinque à La Sorcière Sanglante, justement parce qu'il y a ce changement d'ambiance. On garde le gothique, mais comme tu l'as dit, Jérôme, on le met dans un endroit un peu plus touristique, un peu plus qui évoque les vacances, et ça crée d'autant plus un décalage et une horreur dans tous les événements qui arrivent derrière.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Cinéma bis italien. On va quitter Artus Film, mais on va rester dans le cinéma bis italien pour parler d'un genre de film. Quel genre de film d'ailleurs qui va après les grandes années du fantastique gothique italien, il va y avoir une grande époque à partir de 64 évidemment, et de pour une poignée de dollars d'un certain Sergio Leone, d'ailleurs qui s'appelle pas comme ça hein, au générique du premier opus de la trilogie des dollars hein, parce qu'il avait choisi d'américaniser son nom. C'est dire s'il n'y a pas grand monde qui croyait dans le succès de ce remake du Garde du Corps de Kurosawa. Et arrive là toute une vague qui va derrière déferler, tout un filonné qu'on va abusivement appeler Western Spaghetti. Alors, pour avoir pu justement rencontrer Tonino Valeri et en discuter longuement avec lui, Western à l'italiana, ok, mais il ne faut pas dire Western Spaghetti devant Tonino Valeri, qui était un des maîtres, hein, lui, du Western à l'italiana. Donc, on va parler de Western italien, tout simplement. D'ailleurs, dans les bonus, René Marx le dit, hein, mais c'est vrai que les Italiens, pour eux, c'est pas, on ne parle pas de Western Spaghetti, on parle juste de Western italien. Quand même, en plus, c'est une révolution dans le western, hein, parce qu'après, certes, ils ont été un peu chercher des trucs chez Aldrich, Peckinpah et tout, mais il va y avoir des allers-retours à partir du western italien qui vont un peu revigorer aussi le western américain. Enfin, c'est une période un peu particulière. Et là, on a un film de 67 où, bon, là, c'est pareil, le filonné commence à être un peu épuisé. Enfin, le genre dure plus longtemps quand même, le western italien. Il va aller jusqu'aux années, début des années 70. Mais on a un genre qui quand même commence à s'épuiser et qui est, à ce moment-là, en tout cas, malgré tout plébiscité, parce qu'on voit là, quand on voit ce film-là, qu'il y a quand même du budget, qu'il y a quand même que c'est quand même pas des, c'est pas des petits films, c'est pas des petits budgets quand même malgré tout, et avec des belles distributions, tout ça. Enfin bon, bref. Et là, on va parler d'un film sorti chez Elephant Film. Alors, la sortie avait été repoussée, tout ça. On voulait vous en parler il y a quelque temps. Et là, on est content qu'il soit enfin sorti. C'est un film de Giulio Petroni qui s'appelle La mort était au rendez-vous, avec Lee Van Cleef et John Philip Lowe dans les rôles principaux, mais aussi avec sa sale gueule quand même. On lui fait remarquer d'ailleurs qu'il a une sale gueule, cet acteur que j'adore, Luigi Pistilli, qui lui a joué partout, dans tout. Je ne sais pas combien il a fait de films. Ça doit se compter en centaines. Il a joué dans tous les meilleurs giallos, dans tous les meilleurs westerns. Il était partout. Il traînait sa trogne patibulaire un peu partout. D'ailleurs, moi, je ne trouve pas qu'il est moche. Je trouve qu'il a la beauté cachée des nez, comme disait Serge Gainsbourg. J'adore sa tronche. Je le trouve en fait très beau. Hein. Je le trouve très, très charismatique. Il en impose vraiment. Évidemment, il fait un méchant. Hein, je n'ai pas besoin de vous dire. Hein, ça, c'est Luigi Pistilli. Et puis, alors là, le film, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est un gamin qui est témoin du massacre de sa famille par une bande de voyous. Et il est sauvé, en fait, du massacre par un mec mystérieux dont on ne voit pas le visage. Bon, on comprend très vite qui c'est. Hein, bon, voilà. Et des années plus tard, il est devenu John Philip Lowe, c'est-à-dire le diabolique de Danger Diabolique. Et il essaye de faire Clint Eastwood. Bon, ça passe pas très bien, mais bon, voilà. Et il veut se venger. Et au même moment, il y a un mec qui sort du bagne qui veut lui aussi se venger. Et ils veulent se venger des mêmes personnes. Ça, c'est incroyable quand même. Ils veulent se venger des mêmes personnes et ça tombe bien. Et j'en dirai pas plus. Je vais d'abord vous écouter, les amis, vous parler de ce film qui est un film qu'à titre personnel j'aime beaucoup. Je trouve que Quentin Tarantino s'enflamme quand il met dans le 7e meilleur western de tous les temps. Par contre, il est dans mon top 10 des westerns italiens. Ça, c'est sûr et certain. C'est le meilleur film de Petroni de très loin. Petroni, rapidement, hein, membre du Parti communiste italien, partisan, résistant, c'est d'ailleurs pour ceux qui peuvent faire du cinéma et travailler à la Libération, hein, qui en fin de compte, Petroni, alors il fera aussi Ciel de plomb, tout ça, enfin il fera plusieurs westerns, Ciel de plomb qui est disponible chez Studio Canal, enfin il va faire aussi On m'appelle Providence, qui est culte aussi, hein, avec Thomas Milian, qui est un western comique, bon, mais qui en fin de compte trouve. Produit là son meilleur film. C'est de très loin son meilleur film à Petroni. Et en plus, il a une filmographie assez peu fournie, donc c'est facile de voir tous ses films en plus. Et donc là, on va démarrer par. Je vais démarrer par Damien, parce que je sais que Damien, lui, il n'aime pas beaucoup le western en général. Et là, comme on en a un très bon sous la main, je suis curieux de voir ce qu'il va me dire.
Je crois que j'aime beaucoup Lee Van Cleef et je crois que tous les westerns avec Lee Van Cleef me plaisent énormément. Ce qui est intéressant avec La mort était au rendez-vous, c'est qu'il retrouve un peu un archétype de personnage qu'on a vu dans un autre film qu'on a déjà évoqué, qui est Le dernier jour de la colère. Sauf que Le dernier jour de la colère sort la même année, mais après. Et en fait, on retrouve... ce rôle un peu de Lee Van Cleef qui joue le vieux revanchard pédagogue et qui va apprendre à un plus jeune un peu à un peu la vie. Alors ici il joue Ryan et le plus jeune comme tu l'as dit c'est John Philip Lowe qui le joue et la particularité c'est que ce jeune en fait il est déjà très doué avec son pistolet, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de lui apprendre des trucs. Par contre à chaque fois il se fait piéger et à chaque fois c'est un peu Lee Van Cleef qui le sort qui le piège et qui se moque un peu de lui en disant t'as encore des choses à apprendre, ça sert à rien de tirer 4 coups dans un mec qui est déjà mort si ta première balle là parce qu'après t'es désarmé pour continuer le combat. Et il y a un peu ce duo qui se met en place, pas tout de suite parce que les deux sont des solitaires et il faut attendre vraiment la toute fin pour qu'ils acceptent de travailler ensemble et de s'en sortir. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu justement ce côté jeune, doué et intrépide contre l'expérience de la personne qui sait et qui peut piéger, ce qu'on avait dans Le dernier jour de la colère. La double quête de la vengeance aussi est très cool parce que comme tu l'as dit, les deux veulent se venger, mais il y en a un, c'est parce que sa famille a été tuée et il veut la peau des personnes qui sont occupées, alors que Van Cleef, on comprend immédiatement qu'il s'est fait trahir par les personnes qui essayent de retrouver et de tuer. Et on a deux quêtes de vengeance qui sont totalement différentes, mais qui vont suivre la même trajectoire, même très vite. Les deux, ils se rendent compte. Van Cleef lui dit « Oui, on va peut-être dans la même direction, mais moi, je vais te devancer, je vais m'occuper des trucs et il te restera que des miettes pour au final... avoir un peu les rôles inversés au fur et à mesure. C'est un film qui est très fun en soi parce qu'il y a un jeu de chat et de la souris parce qu'ils poursuivent les mêmes personnes mais en même temps on ne sait pas qui va mettre la main sur les méchants avant l'autre et ça crée toute une dynamique qui est très intéressante à suivre tout au long du film.
Pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'émission, donc on a tu parlais du Dernier jour de la colère, c'est un film de Tonino Valéry quand même, qui est donc un des scénaristes de La sorcière sanglante d'Antonio Margheriti et là, Giulio Petroni, c'est vrai qu'avec ce film, il signe un film qui est resté, alors pas un chef-d'œuvre du western italien, mais un petit classique quand même du genre. Alors, on rappelle aussi que Petroni, Dernier jour de la colère, c'est chez Artus Film, et qu'on peut aussi trouver chez Artus Film d'ailleurs Tepepa, 3 points à massacre, qui est aussi sorti chez Artus Film, qui est aussi un autre film de Petroni, qui est son autre meilleur film, qui est également un western, évidemment, mais qui est moins bien quand même que La mort était au rendez-vous, qui a des moments un peu lâches, qui a des moments un peu des baisses de rythme. Tandis que dans La mort était au rendez-vous, ça passe tout seul. Donc, on passe le film se relâche jamais, on est tout le temps pris dans l'action.
Mais c'est les interactions aussi avec les personnages qui est très cool parce que quand Van Cleef arrive face à une ancienne personne avec qui il a travaillé, il y a cette première interaction de on se connaît, on a fait un truc ensemble. Et ensuite, quand le jeune arrive, il y a ces nouvelles interactions, mais t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, ça permet d'avoir deux scènes, mais un peu avec des dynamiques totalement différentes.
Le film est, en fin de compte, particulièrement bien construit. C'est l'un des scénaristes fétiches de Leone et Vincenzoni qui est à la baguette. Donc, il sait faire, il a du métier. Et évidemment, on sent bien quand même... Alors, c'est marrant parce que c'est un film qui a la double influence du cinéma américain et du cinéma italien. Dans les bonus, il y a un intervenant qui dit que ça se rapproche plus du cinéma américain, du cinéma classique. Alors, je suis d'accord pour... une scène en particulier, c'est souligné aussi dans un bonus d'ailleurs, de ce Blu-ray édité par Elephant Film. Effectivement, l'intro du film, on est presque dans un film fantastique, dans un film de terreur, avec ce groupe d'hommes qui est attaqué par un autre groupe d'hommes, et après cette famille qui est attaquée, et puis c'est horrible parce que ces brigands, ils violent à la fois la mère, la gamine, enfin, même s'il n'y a rien qui est montré, ça reste pudique, et voilà. Mais c'est quand même assez horrible. Ce qu'ils font, c'est horrible. Et puis, ils ont tous des sales gueules. Des trucs, évidemment, on peut les reconnaître facilement. Des grosses balafres, des boucles d'oreilles particulières, des bijoux particuliers. Ou tout simplement, ils ont la gueule de Luigi Pistilli, qui ne s'oublie pas, voilà. Donc, tout ce début de film, en fait... il symbolise bien ce qu'est le film. C'est-à-dire qu'il y a la scène où le gamin, donc il est protégé par, on l'a dit, hein, protégé par quelqu'un d'autre. On ignore qui est-ce qui a protégé le gamin. Le gamin ramasse un éperon. Et là, tout de suite, on est, c'est souligné dans un des bonus, dans la vallée de la peur de Raoul Walsh. La scène est reprise à l'identique. Selon l'intervenant dans le bonus, Petroni dit qu'il n'avait jamais vu le film de Walsh au moment de faire son film. Ça me paraît absolument improbable au vu des images du film. Ça n'enlève en rien, d'ailleurs, à la qualité du film. Hein, et le film est comme ça, toujours bien construit. C'est un film d'une dualité entre deux caractères différents, deux personnages différents, le vieux, le jeune. Alors, le charismatique, d'un côté, Lee Van Cleef, ça c'est indéniable. Enfin bon... Et qui sait au plus très bien faire du cheval. Je tiens à le préciser, parce que parfois dans les westerns, il y a des mecs qui ne savent absolument pas faire du cheval. Lee Van Cleef, c'est un cavalier émérite, ça se voit. Il est très élégant sur son cheval. Et de l'autre côté, alors un peu avec sa sale trogne. Enfin, il est très charismatique, mais il a un peu une sale trogne. L'autre, il a une gueule très lisse, très beau gosse. Voilà. Après, les deux aiment bien le sens de la punchline. Hein. Ils aiment bien ça, c'est un point commun. Et tout le film est construit comme ça en miroir, avec par exemple le tout début, cette scène qui est à la limite du fantastique, dans des éclairages bleutés la nuit, ce bleu électrique. Et y a une tempête qui s'abat. Mais c'est une tempête d'eau, c'est de l'orage, la pluie qui tombe. Les personnages sortent d'ailleurs d'endroits complètement improbables pour attaquer ces pauvres gars. C'est ce qui confère un aspect fantastique au film. Et toute la dernière partie du film est dans une tempête de sable. Voilà, donc tout se répond tout le temps. Le film est particulièrement bien construit, particulièrement bien foutu, il faut dire les choses. Parce qu'en fin de compte, c'est une succession de scènes qu'on a un peu déjà vues. Sauf qu'elles sont vachement bien faites. Du coup, ça donne... Et puis, il y a quand même cet aspect italien dans la mise en scène. Il y a au moins une scène de poker avec une tentative de caméra tournoyante. Il y a énormément de zoom particulièrement bien utilisé, surtout de gros plans sur les yeux qui sont très, très beaux. Et puis, il y a des moments de grand cinéma. Il y a un moment dans le film. Il y a deux moments pour moi qui sont très beaux dans le film. Il y a un moment, alors c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un communiste derrière la caméra, où en fait le personnage de John Philip Lowe, qui est quand même un acteur assez fade, il faut le dire, il fait pas le poids face à Lee Van Cleef, qui est un acteur hyper impressionnant. Luigi Pistilli est un acteur hyper... Tous les méchants, là, c'est des acteurs de fou. Quand ils sont pas super bons, ils ont une gueule pas possible, donc du coup, ils marquent vraiment. Il y a deux scènes pour moi. Alors lui, il est enterré dans le sable avec seulement sa tête qui dépasse. On lui fait bouffer du sel. Et on lui met une écuelle d'eau, mais très loin de sa tronche. Du coup, John Philip Lowe, il va vraiment pas bien. Il passe 10 heures au soleil, comme ça. Et puis, il y a Lee Van Cleef dans une scène hommage à Pour une poignée de dollars, parce qu'il faut jamais offenser le mulet. Ceux qui ont vu les films comprendront. Qui se pointe avec un âne et puis un sombrero, puis qui met un terme à tout ça. Hein. Mais c'est pas Lee Van Cleef qui va venir le sortir de terre. À la limite, il le chambre un peu. Et c'est tous les paysans qui vont venir dans une scène à la Buñuel, presque. Hein. C'est une scène de grande solidarité parce qu'en fait ces gens ils sont sous l'emprise de ces bandits dont ils peuvent pas se débarrasser et là ils se disent c'est une opportunité qu'on a à saisir avec ces deux gars-là qui l'autre il s'est fait enterrer dans le sable et tout mais enfin ils ont l'air de pas en avoir peur et puis ils ont l'air d'être assez bons avec un flingue voilà donc du coup ils viennent le déterrer et c'est une très belle scène et puis il y a une autre scène que j'aime beaucoup. Et ça, c'est presque du Solima pour moi, qui là, lui, je considère comme un maître absolu du western italien. Et il y a cette scène où ils attendent en haut, la cité est assiégée, parce qu'il y a effectivement cette scène de siège avec beaucoup de figuration, tout ça. Et la caméra panote légèrement vers le haut, on voit les villageois qui attendent au sommet des tourelles, qui sont en haut du fort. Et la caméra panote vers le haut, à ce moment-là, on voit arriver toute la cavalerie de salopards, la horde sauvage puissance 1000. Et la caméra va alors faire un travelling latéral dans un très très beau plan de cinéma où on va voir tout à coup un panoramique et on va voir là tous les figurants qui sont là, tout le... Et ça, c'est du grand cinéma, c'est du plan large, c'est ce qu'on voit plus beaucoup dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a des moments de cinéma assez intenses. Et donc le film... pour moi, la mort était au rendez-vous et vraiment une très belle réussite du western italien, puis du western tout court. C'est-à-dire que c'est vraiment un très bon western. Et oui, Damien, il y a plein de très bons westerns comme ça que tu vas découvrir en fréquentant des vieux amateurs de western comme nous. On va quitter Elephant Film, chez qui est sorti La mort était au rendez-vous, pour aller chez Artus Film, retourner chez Artus Film, hein, parce que c'est déjà eux qui avaient sorti les deux premiers films dont on a parlé, les films gothiques La sorcière sanglante et Un ange pour Satan. Et là, on va changer de style et arriver sur un autre Filone. Il y a guère que le giallo dont on n'a pas parlé dans les gros Filone qui ont marqué leur temps. Bon, ni de péplum, vous me direz, mais bon, enfin, on n'a qu'une heure quand même, les gars. Mais on va parler de Poliziesco. Alors, on va dire des Polizieschi, parce qu'il y en a trois. Alors, vous savez, on a déjà parlé dans l'émission. Hein, c'est polar italien des années 70, qui était très clairement, qui était très mal vu par la critique bien pensante de l'époque, qui sont aujourd'hui réévalués. On en sort chez tous les éditeurs. Voilà, on semble redécouvrir un patrimoine que nous, les amateurs de bis, on connaissait déjà fort bien. Et qui, effectivement, nous donne à voir des polars qui sont souvent des séries B redoutablement efficaces, politiquement très intéressantes, parfois très à droite, parfois très à gauche, peu importe, mais en tout cas qui donne un vrai portrait de la société italienne de son époque. Artus en a sorti déjà pas mal. Et il continue le travail. On peut que les féliciter. Avec donc ces trois films de Stelvio Massi. Donc on est dans l'ambiance Italie des années 70 avec la mafia, les brigades rouges, les terroristes d'extrême droite. Enfin, on est dans une ambiance assez sympa. Les kidnappings, tout ça, voilà. Les braquages en pleine rue. Voilà, quoi, l'Italie des années 70. Hein. Et donc, avec Un flic voie rouge, on est aussi face au premier film, premier Marc. Et oui, le fameux Marc. Alors, on parle peut-être pas beaucoup, le fameux Marc, mais Marc, très, très populaire en Italie parce qu'il est interprété par Franco Gaspari. Et c'était quand même pas une mince affaire pour Stelvio Massi, qui est un réalisateur assez inégal. Hein. Moi, c'est dans le Poliziesco, c'est pas du tout le réalisateur que je préfère. Et c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt un esthète de la violence, de l'action, mais qui souvent oublie un peu de diriger les acteurs, où il y a souvent du mou aussi entre les séquences. Mais bon, sur les scènes d'action, il est plutôt bon. Et là, il avait quand même, c'était pas simple pour lui, parce qu'il fallait qu'il arrive à faire d'une vedette, c'était ça la mission que lui avaient confiée les producteurs, ce fameux Franco Gaspari. Alors en plus, il affronte Lee Jacob dans le film, donc Franco Gaspari, qui a aucune expérience d'acteur, va devoir affronter Lee Jacob, qui a une petite expérience d'acteur quand même, Lee Jacob. Hein. Franco Gaspari, pourquoi on voulait le propulser vedette? Parce que c'était comme nous l'apprend Kurt Riedel dans les bonus, c'était une vraie vedette. des romans photos. Ce qu'on oublie aujourd'hui, mais les romans photos, oulala, c'était énorme. C'était, un jour, on fera une émission sur les romans photos, c'est un sujet qui me passionne. Et il y avait Franco Gaspari, qui était cet acteur de romans photos, qui plaisait beaucoup à toutes les femmes italiennes, qui étaient, voilà, avec son physique de séducteur, un grand brun élancé. Mais un acteur dont on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et là, on lui donne le rôle du commissaire Marc Terzi, de la brigade des stupes de Milan, et qui doit enquêter sur les activités de l'homme d'affaires Benzi, y compris c'est les Jacob, hein, soupçonné d'être à la tête d'un trafic de drogue international. Attention, parce que le commissaire Marc Terzi ne s'attaque pas juste à un petit trafic de petits rigolos du coin. Non, non, ça sort des frontières milanaises, ça va bien au-delà. Et évidemment, bon, il a un sidekick, hein, c'est normal, ça, on est dans les débuts du buddy movie. Et puis lui, évidemment, c'est pas vraiment un flic conventionnel. Voilà, c'est un flic à la mode des années 70, c'est-à-dire un flic qui demande pas de mandat avant de rentrer chez toi. Il en a rien à foutre. Il perquisitionne à la pétoire, lui. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec Marc Lagachette. Voilà. Et donc ce flic qui voit rouge, il voit super rouge là quand même dans le film. Hein. Il est confronté vraiment à un méchant très méchant, qui est vraiment très réussi d'ailleurs. Hein, Lee Jacob est très très charismatique en gros bonnet de la drogue. Et le scénario, faut le dire quand même, il est pas mal. Le scénario est pas mal. Ce film, c'est vraiment une bonne surprise. Parce que le scénar, c'est Dardano Sacchetti. Dardano Sacchetti, c'est déjà le scénariste de Squadra Volonté, qui était le précédent film de Massi, qui avait popularisé un peu ce directeur de la photo devenu réalisateur. Un film avec Thomas Millian, mon idole. Et puis surtout, Sacchetti, c'est vraiment un bon scénariste. À l'époque, il vient de faire Le chat à neuf queues, La baie sanglante de Mario Bava, Le chat à neuf queues de Dario Argento. Donc là, il est à son meilleur. Et d'ailleurs, le film a un ton étrange parce que le film a un côté presque immoral, presque tristouné à la fin d'ailleurs. C'est assez étonnant. Alors, évidemment, comment dire, Marc Terzi, alors avec son aide, hein, qui est campé par Giampiero Albertini, qui est plutôt un rigolo. C'est l'idée de compenser le personnage sérieux par un personnage plus drôle. C'est aussi un personnage un peu atypique. Parce que, par exemple, c'est là qu'on voit qu'il y a un Sacchetti au scénario. Dans plein de films, là, par exemple, il prend sous son aile une droguée pour essayer d'en faire un peu son... Il a pitié d'elle, en fait, une toxico. Jamais il va profiter d'elle. Sexuellement parlant, j'entends bien, qui était quand même un poncif du cinéma italien de cette époque. Non, Marc, c'est un bon gars. Marc, c'est un bon gars, sauf qu'il est adepte de la justice expéditive. On ne peut pas tout avoir non plus. Hein, voilà. Et donc, le film va être assez riche, en poursuite en voiture, en cascade, en mort violente. Alors, bon, Stelvio Massi abuse quand même beaucoup de la caméra à l'épaule, mais je pense que ça... C'est le budget qui veut ça. Je pense que c'est un budget assez petit, en fait, en vérité. Mais on va dire qu'il fait... À l'époque, c'était assez fréquent. Hein. Mario Caiano, Umberto Lenzi vont souvent pratiquer ce genre de filmage à l'épaule parce que, bon, voilà, pas des gros budgets. Donc, pour que ce soit efficace, la caméra est mobile, ça, c'est plus simple. On peut tourner des plans plus longs. Enfin, voilà. Le film va être un énorme succès. Donc, on va avoir droit à une suite qui sort la même année, qui est tournée seulement, qui est tournée quasi en même temps que la sortie du premier film, et 4 mois plus tard, donc la même année en 75, le film sort sur les écrans, et le film là aussi va faire un carton. Ce film s'appelle Marc Lagachette. Alors ça aurait été plus logique que ce soit le titre du premier, mais c'est comme ça. Et là, on est toujours sur Marc Terzi. Alors là, il est envoyé à Gênes. Il est là pour enquêter sur une série de meurtres sordides revendiqués par un certain Sphinx. Ça me rappellerait pas ça un film de Don Siegel avec un flic qui enquête sur des meurtres énigmatiques signés d'un certain Scorpio. Ça me rappelle un peu ça. Voilà. On va dire ça. Il va y retrouver qui ? Lee Jacob, l'homme d'affaires Benzi. Oui, parce que je vous dis, l'autre film, il se terminait pas vraiment comme on a l'habitude de voir les policiers qui se terminaient. Hein. Voilà, on va dire que le méchant il s'en sortait un peu quand même, voilà. Donc là il le retrouve et bien sûr évidemment il pourrait très bien être mêlé à ses crimes, le Benzi. Et donc le Benzi, eh ben il va retrouver le beau Franco Gaspari sur son chemin. à signaler qu'il y aura d'ailleurs un troisième film à cette série qui s'appelle Calibre 44, agent très spécial. Et celui-là, il n'est pas sorti en DVD, donc peut-être que nos amis d'Artus Film vont le sortir. Il est sorti. Moi, j'ai toujours la VHS qui était sortie chez Super Vidéo Productions, un éditeur que tous les fans de bis italien connaissent très bien. Et là, il ne faut pas confondre avec Magnum 44 spécial, c'est presque le même titre, un autre film, mais sans marque, avec un flic joué par John Saxon, et qui est sorti, lui, chez Elephant Film. Par contre, celui-là, vous pouvez le voir, on en a déjà parlé dans l'émission. Alors, le film-là en question marque la gâchette, le scénario de Sacchetti est encore plus ambitieux que le premier, puisque, évidemment, il y a l'inspecteur Harry, mais il y a aussi tout un début du film, qui, et c'est volontaire, rend hommage à La mariée était en noir de Truffaut, donc ça donne un côté très, très particulier, très singulier au film. Il y a aussi dans les seconds rôles Nino Benvenuti, qui est un acteur qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui est un acteur vraiment intéressant, un acteur assez suave, comme ça, une façon de jouer très particulière. Il est à la fois très charmant et très effrayant. Enfin voilà, le genre d'acteur qu'on aime beaucoup. Il y a aussi des plans du pont de Gênes qui a disparu, qui s'est écroulé, donc ça donne une valeur aussi un peu documentaire au film. Et puis, il y a une scène qui est super dans le film. Il y a une scène qui est super, c'est-à-dire qu'à un moment, Marc Lagachette, il se rend dans un cinéma qui projette La police à les mains liées. Alors, La police à les mains liées, on en a parlé, c'est un film de Luciano Ercoli, sorti lui aussi chez Elephant Film, et donc non pas chez Artus Film, comme celui que je chronique actuellement. Vous vous y retrouvez, voilà. Donc là, je vous parle de Marc Lagachette qui est sorti chez Artus Film. Donc, il va dans un cinéma dans lequel on passe donc La police à les mains liées, et, bah bon, évidemment, il va y avoir une grosse bagarre, hein, c'est une grosse bagarre, hein, ça rigole pas, quoi. On n'est pas chez les rigolos. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, Le réalisateur joue, ça m'étonne même de la part de Massy, joue avec la diégétique et le son du film qui est projeté correspond au son de la baston dans la salle. C'est exactement les sons qui s'adaptent. Je trouve que c'est une scène géniale. Je trouve que c'est un peu genre le comble de la diégétique au cinéma, voilà. Et c'est super. Tout à coup, il y a cette scène qui arrive dans le film qui justifie rien que pour cette scène qu'on voit le film, qui est donc, voilà, une bonne série B. D'action, mais il y a cette scène qui est très au-dessus du lot. Alors après, il y a un troisième film de Stelvio Massi qui est proposé là chez Artus Film, qui s'appelle Magnum Cop, alors avec Maurizio Merli. Alors Merli, c'est l'icône réactionnaire italienne à la grosse moustache, musculeux, doté d'un visage, comment dire, assez balèze, avec des mâchoires saillantes. Il est le héros de nombreux polars, d'ailleurs de fort belles tenues, hein, signé Umberto Lenzi. Moi, j'aime beaucoup même SOS Jaguar, Opération Casseur, qui pour l'instant est uniquement sorti en VHS chez Proserpine. Dès que je reçois un ami à la maison, je lui projette ce film que j'adore. C'est aussi un acteur plus complet qu'on veut bien le dire, hein, parce que par exemple, il est très bien dans Manaya, l'homme à la hache de Sergio Martino, qui lui est disponible en DVD chez 7-7, et qui est aussi aujourd'hui un acteur qui était vraiment une icône réactionnaire, parce qu'il incarnait toujours ce flic aux méthodes douteuses, enfin voilà, mais surtout qui est resté dans les mémoires parce que sa mort a quand même traumatisé l'Italie. C'était une star. Il meurt en 89, il n'a que 49 ans, alors que c'est un athlète, tout ça. Il meurt d'une crise cardiaque. Et bon, il semblerait que justement, ce soit l'entretien de ce corps très musculeux, l'abus de stéroïdes, tout ça, qui aurait provoqué tout ça. Donc ça a pas mal choqué l'Italie. Là, en tout cas, moi, c'est un acteur que j'aime bien parce que c'est une vraie vedette du bis italien et qui a été... qui est un peu oublié aujourd'hui. Là, Magnum Cop 78, on est un peu sur la fin du Filoné, c'est un peu la fin du Poliziesco. D'ailleurs, le film est un peu une parodie. Il adopte un peu le ton de la parodie. Et généralement, quand on commence à parodier le genre, on l'a vécu avec le western. Il y a même aussi des parodies de Giallo. Voilà, généralement, la parodie, c'est l'étape avant la version porno. Et après, c'est la fin. Le Filoné, il est arrivé au bout. parce que les Italiens qui font pratiquent un cinéma de la pulsion quand même ont tendance comme ça à exploiter les filonnés jusqu'au bout. Vous avez les meilleurs films au début, après on va aller vers plus de violence, après on va aller et petit à petit comme ça on arrive vers quelque chose. La pulsion devant prédominer, il y aura la pulsion du rire et puis après il y aura la pulsion du sexe qui va souvent arriver. Hein. Même le western italien a fini en version porno aussi. Hein. Voilà, c'est assez étonnant cette trajectoire. Il y a même eu ça dans le giallo avec Giallo à Venezia, tout ça qui sont quasiment des films pornographiques. Donc c'est assez étonnant, mais tous les genres quasiment subissent ça en Italie. Et là, donc on est à la fin, c'est la queue de comète du Poliziesco. Hein, et d'ailleurs, Merli, ça se passe même pas en Italie. Il quitte l'Italie pour aller en Autriche, où il va prendre contact avec un collègue joué par un acteur génial, Gastone Moschin, qui est un acteur super, dont on a parlé dans Milan Calibre 9, mais qui est aussi un fabuleux acteur de comédie. Et là en fait, donc Merli, qui est un ancien flic, il est devenu détective privé. Mais pourquoi il est devenu détective privé ? Pourquoi il peut plus être flic ? Mais parce qu'il était trop méchant avec les méchants. Et ouais, voilà, c'est terrible drame de ces flics aux méthodes expéditives. Et donc là, c'est un riche homme d'affaires qui lui demande de retrouver sa fille qui a été enlevée. Et donc il va à Vienne. Et il va quand même se retrouver, parce que le sujet, là, ça rigole pas. C'est là que je vous dis qu'on est dans la queue de filonnée, parce qu'on bascule un peu dans le crapoteux. Il va travailler sur un réseau de prostitution, évidemment, qui implique des notables. Ça va rappeler aussi ceux qui ont vu la lame infernale, tout ça. Enfin, voilà. Et évidemment, réseau de prostitution avec des jeunes femmes. Voilà. Hein. Et puis, mystère des coproductions, il y a Joanne Collins, qui passe son temps à se balader en petite tenue dans le film. Production oblige. Bon, elle est charmante, hein, Joanne Collins, mais assez étonnant, on va dire, sa prestation. On va dire qu'elle est peu avare de ses charmes. Voilà. Et puis, ce qui est étonnant dans le film, par contre, parce que le film est un peu radin, hein, sur l'action et tout ça, mais il y a beaucoup de tracks qui se déroule dans une Vienne peu accueillante et qui se déroule à pied, en mode filature, en mode poursuite à pied. Ça fait pas très envie d'aller à Vienne, d'ailleurs. Bon, pour ceux qui avaient envie d'aller dans un pays non dénazifié, je le rappelle. Mais c'est vraiment un film assez particulier parce qu'il y a toute une première partie lourdingue au niveau de l'humour. Et puis... il y a tout à coup où le film va basculer, un moment avec une scène d'ailleurs qui est empruntée au Castellari du Témoin à abattre, hein, qui lui est disponible chez Studio Canal, avec une gamine qu'on prostitue et qui se fait exploser par une bagnole, mais vraiment typique de ce que pouvaient faire les Italiens quand ils voulaient choquer le public. Et à partir de là, le film va basculer dans quelque chose de typique du bis italien de l'époque. Voilà, on va se permettre certaines outrances, tout ça. Et Maurizio Merli va faire son Maurizio Merli. Et puis Stelvio Cipriani livre une musique aux petits oignons, comme d'habitude. Et ça s'appelle Magnum Cop. Et donc, avec Un flic voie rouge et Marc Lagachette, c'est sorti chez Artus Film, tout comme La sorcière sanglante et Un ange pour Satan, dont on vous a parlé en début d'émission. Et également La mort était au rendez-vous, ne l'oublions pas, de Giulio Petroni, disponible chez Elephant Film. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.